Et à la une de la science aujourd'hui, un robot chinois sur la Lune. Ah, on adore cette version, Héloïse. De quoi s'agit-il ?
Mathieu, je suis sûre que vous avez reconnu Fly Me to the Moon, mais oui. Version chinoise.
Ah, oui.
Et c'est une façon comme une autre de rendre hommage à la Chine, qui a réussi, le 3 janvier dernier, à poser un module d'exploration qui s'appelle Chang'e 4, sur la face cachée de la Lune, au terme de presque un mois de voyage. Et c'est une première mondiale. Et autre première, la communication entre ce robot et la Terre est assurée grâce à un satellite qui sert de relais. Alors pour l'instant, tout marche bien. Chang'e 4 nous a même envoyé des photos de la surface lunaire. Alors pour décrypter l'événement et en expliquer les enjeux, nous accueillons Sylvain Boulet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue à Géosciences Paris Sud.
Tout à fait.
Alors, on le rappelle, ce n'est en aucun cas la première fois que les scientifiques réussissent à poser un objet sur la surface de la Lune.
Non, c'est pas la première fois, mais c'est quand même jamais commun de poser quelque chose à la surface de la Lune. Alors évidemment, on se rappelle les sondes soviétiques et américaines dans les années 60-70, puisque la dernière sonde soviétique s'est posée en 1976, et finalement, depuis 1976, il s'est pas passé grand-chose. Donc finalement, bah voilà, on a une nouvelle excitation, on a eu Chang'e 3 qui s'est posé en 2013, et puis là, maintenant, Chang'e 4 qui se pose pour commencer tout doucement l'année 2019.
D'accord. Alors, pourquoi aller explorer cette face cachée, donc cette face qu'on ne voit jamais? Elle est si différente que celle que moi, je peux voir dans le ciel tous les jours?
Alors, tout simplement parce qu'elle est cachée. En fait, c'est un peu un challenge aussi. Effectivement, on ne s'est jamais posé à la surface de cette face. Tout simplement parce que c'est compliqué, tout simplement, d'un point de vue communication. Parce que, comme son nom l'indique, elle est cachée et la communication ne peut pas être directe de la Lune à la Terre. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû installer un petit satellite de l'autre côté pour pouvoir facilement communiquer. Alors il y a évidemment un enjeu politique, hein, puisque la Chine veut montrer qu'ils sont capables de faire des grandes premières, mais il y a aussi quand même avant tout un enjeu géologique, scientifique, pour pouvoir montrer finalement que cette face de la Lune est un peu différente de la face visible. La face visible, c'est celle que vous voyez toujours dans le ciel, qu'on peut observer avec le petit télescope, et la face cachée, on ne l'observe jamais, et donc la géologie est différente.
Elle porte en elle tout un mystère d'ailleurs, cette face cachée. Parce qu'elle a fait beaucoup fantasmer aussi, Sylvain Boulet. Hein.
Tout à fait. Effectivement, avant 1959, on ne l'avait jamais vue. Donc, Luna 3, 1959, première fois qu'on voit cette face cachée. Et quand on l'a vue pour la première fois, on s'est rendu compte qu'elle était totalement différente de la face visible. Parce que sur la face visible, vous pouvez le voir dans le ciel, hein, on a un tiers de la surface qui est recouverte par des mers lunaires, des taches sombres. Alors que sur la face cachée, eh bien, on n'a pas ces mers lunaires. Et ce petit robot s'est posé justement dans un énorme bassin d'impact qui fait 2500 km de diamètre, le cratère Haiti. Et ce bassin, eh bien, sur la face visible, normalement, il est rempli par de la lave. Et sur la face cachée, il n'est pas rempli par de la lave. Alors, on aimerait bien comprendre pourquoi, sur la face cachée, eh bien, il n'y a pas de mer lunaire.
D'accord, donc un des objectifs principaux, c'est d'en savoir plus vraiment sur la géologie de cette face cachée.
Oui, tout à fait. On a, depuis 50 ans, finalement, écrit une histoire géologique de la Lune et de la Terre, parce que, je vous le rappelle, eh bien, la Lune et la Terre sont reliées. Hein. On pense que la Lune est directement issue d'une collision entre la protoplanète Terre et un petit corps qui existait il y a 4,5 milliards d'années. Et effectivement, cette histoire, eh bien, si on la voit de l'autre côté, eh bien, elle pourrait peut-être changer un tout petit peu, parce qu'on va avoir de nouvelles mesures et on va essayer de voir justement tester toutes ces hypothèses qui existent depuis 50 ans.
Et alors, il y a toujours ce fantasme d'aller passer un peu de temps sur la Lune, voire d'y habiter. Est-ce que Chang'e 4 va nous apprendre d'autres choses, de choses concrètes sur une possible vie sur la Lune?
Finalement, ce retour à la Lune, c'est un peu peut-être la préparation d'un retour vrai sur la Lune de toutes les nations. L'Agence spatiale européenne a parlé du village lunaire. Les Chinois veulent retourner aussi, marcher à la surface de la Lune. D'ici 2020, normalement, il va y avoir un retour d'échantillons lunaires. Et donc, il y a une notion de renouveau et finalement de l'exploration. On espère pouvoir et peut-être installer une base permanente. Et effectivement, parmi les instruments, on a notamment une petite, un petit cylindre qui contient notamment des graines de patates et des graines de plantes.
Ah bon
pour voir, voilà.
Pourquoi faire?
Eh bien, pour voir si
des
on est capable.
Des patates sur la Lune.
Exactement, des patates sur la Lune. Alors évidemment, il n'y a pas de jardinier pour planter dans le sol lunaire, mais par contre, il y a dans ce petit cylindre, c'est un écosystème fermé et à distance, il y a une caméra, on devrait pouvoir voir ces graines de patates et de plantes éventuellement pousser en direct.
Bientôt des frites assez lunaires.
Exactement.
Et il y a aussi l'enjeu de l'eau, non? On veut savoir s'il y a de l'eau.
Ben, en fait, tout simplement, on veut savoir ce qu'on est capable de retirer tirer du sol lunaire. Si on va s'y installer, on aimerait bien savoir s'il y a des ressources, s'il y a de l'eau, parce que évidemment tout ça, ça serait des choses qu'on n'emmènerait pas à la surface de la Lune. Donc ce petit robot, eh bien évidemment, il va essayer de gratouiller, sentir, voir s'il y a de l'eau qu'on pourrait éventuellement extraire dans le futur.
Et c'est vrai qu'on parle aussi d'aller sur Mars. Est-ce qu'on fait bien de s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus près de nous, qui est la Lune? Est-ce que c'est une sorte d'étape vers les colonies martiennes?
Évidemment, on parle beaucoup de retourner sur Mars et d'y aller s'installer. C'est loin Mars, hein, donc pour aller faire des tests, pour apprendre à vivre sur une planète, finalement, on a notre voisine, et ça serait évidemment beaucoup plus simple pour aller faire des tests, pour éventuellement apprendre à construire des habitats souterrains, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur la Lune, c'est le début de notre exploration.
Etienne Gis, est-ce qu'il y a de la dynamique, justement, entre la Lune et la Terre qui peut intéresser le mathématicien?
Bien sûr, il y a une chose qui n'a pas été expliquée, c'est pourquoi la Lune présente toujours la même face? Vous nous l'expliquer?
Oh, bah allez-y, moi je veux bien.
Il se trouve que la Lune n'est pas parfaitement sphérique, donc elle a un côté un peu comme un ballon de rugby, et donc présente vers la Terre une pointe qui l'attire un peu plus que le reste, ce qui fait que la Lune présente toujours la même face à la Terre.
Voilà, complément d'information. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour la Lune? Alors, ça va faire 50 ans que l'homme a marché sur la Lune. Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur?
Le futur, c'est essayer de réfléchir, finalement, que toutes les nations essayent d'envisager un plan pour éventuellement construire cette base permanente sur ou autour de la Lune, et tout simplement s'y intéresser de nouveau. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 50 ans, en 1969, il y avait 600 millions de personnes qui suivaient l'alunissage, et donc évidemment, pour 2019, il faut fêter ça dignement. Donc évidemment, tout un groupe de scientifiques eh bien, s'est réuni pour inviter eh bien, tous les possesseurs de télescopes dans le monde entier pour sortir son télescope dans la rue les nuits du 12 et 13 juillet pour tout simplement toucher le maximum de personnes dans la rue.
Et d'ailleurs, on peut s'inscrire dès maintenant.
Tout à fait. En fait, il y a un site internet www.onthemoonagain.org et vous pouvez vous inscrire, et on espère être évidemment des dizaines de milliers à sortir l'instrument et à fêter finalement cette fête de la Lune.
Bon, eh ben on y sera en tout cas pour cet été lunaire et le grand comeback justement de notre satellite. Merci beaucoup à vous Sylvain Boulet. Merci. Et puis Héloïse, on se retrouve demain avec une nouvelle Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le risque de fausse couche ne serait pas qu'une affaire de femme, puisque selon une recherche menée par des scientifiques de l'Imperial College de Londres, la qualité du sperme pourrait aussi être en cause. Les scientifiques ont examiné le sperme de 50 hommes dont les partenaires avaient subi 3 fausses couches consécutives ou plus, et l'ont comparé à celui de 60 hommes dont les partenaires n'avaient jamais rencontré ce problème. L'analyse a révélé que l'ADN de leur sperme présentait donc 2 fois plus de dommages que celui du groupe témoin. La forêt amazonienne plus menacée que jamais, la dernière révision du code forestier brésilien élargit l'autorisation de déforestation en Amazonie au profit des propriétaires terriens privés. Des chercheurs brésiliens et suédois s'alarment dans un article publié dans la revue Nature. En modélisant les effets de la mise en œuvre stricte de la loi, ils ont démontré que jusqu'à 15 millions d'hectares de forêt pourraient être abattus légalement. Un scénario catastrophe qui annulerait les efforts de régularisation des réserves légales dans un Brésil où le nouveau président Bolsonaro n'a de cesse de manifester un mépris pour les questions environnementales. Et puis une équipe internationale de chercheurs a démontré pour la première fois qu'en corrigeant un problème dans la photosynthèse des plantes, les rendements des cultures pourraient être fortement augmentés. Dans certaines de nos cultures les plus utiles, comme celle du riz ou du blé, les voies enzymatiques de la photosynthèse produisent des sous-produits toxiques qui réduisent l'efficacité. Et dans leurs travaux publiés dans Science, les chercheurs ont créé une voie métabolique différente dans des plantes tabac transgéniques et ils ont obtenu des résultats qui étaient environ 40% plus productifs que les plants de tabac de type sauvage.